Bonsoir à toutes, bonsoir à tous, vous êtes bien sur choc.ca, c'est le tome 38, le chapitre 409 de Mission Encre Noire qui commence. En pensant catastrophe. Tu aperçois le ciel en flammes, les nuages calcinés et des essaims d'oiseaux s'écrasant au sol, ou peut-être s'agit-il d'anges habitués à garder les enfants durant la nuit. Et pourtant, tu t'accroches à la joie. Tu en fais l'effort comme on se donne un devoir de conscience. Tu n'entends pas renoncer au cœur qui transforme en joyaux les cailloux du chemin, même si c'est pure lubie de femme qui refuse de regarder la réalité en face. Suie, cendre, paysage de chagrin et de pitié. Tu dresses la liste des images bienveillantes que tu pourrais décrire. Tu commences par l'eau des sources et tu en viens à l'eau des larmes. Les larmes, crois-tu, sont le nid de toutes les promesses. Il faudrait inventer un mot pour l'euphorie qui émerge soudain de la douleur, la prend de vitesse. Un mot avec des ailes, comme les nuées d'éphémères survolant les marécages, le temps de se reproduire avant de plonger dans le néant. Un mot léger, exubérant, parfumé, couleur de fruits et de sève, si sonore qu'on sentirait à nouveau la vie bouillonner sur les lèvres, à nouveau la fièvre de croître, de se multiplier et l'appétit de rire et de s'amuser. Un mot de la main gauche avec des taches d'encre sur la paume, un mot d'adolescent qui ne se doute pas qu'il deviendra vieux. Il faudrait apprendre à résoudre l'énigme des insectes. Bonsoir à toutes, bonsoir à tous. Ceci est un extrait d'Exercice de joie par Louise Dupré, paru en 2023 aux éditions du Norrois. Dernier fascicule du triptyque sur les possibilités du poétique face à l'horreur et à la détresse, entamé avec « Plus haut que les flammes » en 2010, puis « La main hantée » en 2016, « Exercice de joie » présente la poète fébrile, les côtes friables, hantée par des rêves qui la réveillent la nuit. Toutefois, elle désire se tenir debout devant un paysage en ruine. Elle s'accroche à ses mots comme à une bouée. Car il est peut-être vain de vouloir comprendre l'envers du monde. Alors pourquoi ne pas s'apprivoiser les douleurs, ne pas craindre la piqûre de l'aiguille? L'écriture, veine fragile, se change en écorce pour combattre encore et toujours en prose et en vers. Si la suie de Birkenau ou de Auschwitz la poursuit encore, si l'ombre de cette main coupable du second recueil habite encore les pages, les poèmes explorent ici une autre voie, celle de la joie. Cet instant précieux et rare où le cœur module ses élans. Il est du devoir de la poète de donner à voir cette faible clarté bienveillante qui conduit sa main. Certes, le cercle des poètes disparus s'agrandit, le monde chancelle, mais non, elle n'abdiquera pas. L'autrice appartient à la généalogie des femmes qui n'ont jamais renoncé. J'accueille ce soir à Mission Encre Noire, Louise Dupré. Bonsoir Louise.
Bonsoir Eric.
Louise, vous êtes poète, romancière, dramaturge, essayiste et membre de l'Académie des Lettres du Québec. Vous avez publié une vingtaine de titres qui ont mérité de nombreuses distinctions. Vous collaborez régulièrement avec des artistes d'autres disciplines, cinéastes, vidéastes, metteurs en scène, chorégraphes, compositeurs et artistes visuels. Au Norrois, vous avez publié Tout Près en 1998, Une écharde sous ton ongle en 2004, qui a été finaliste au prix du gouverneur général. Noir déjà en 1993, Grand Prix du Festival international de la poésie de Trois-Rivières, votre dernier recueil Exercice de joie clôt un triptyque réunissant Plus haut que les flammes, paru en 2010, et La main hantée, paru en 2016. Il y a différents sens à donner au mot exercice au pluriel, l'activité physique, celui de penser, de se mettre en mouvement, ou encore l'entraînement militaire au maniement des armes. Je doute bien de l'utilité du mot militaire dans ce cas, bien sûr. Néanmoins, ce titre suppose une sorte de mise en condition nécessaire, un effort contraignant pour atteindre cette joie. Alors pourquoi ce titre au pluriel, exercice de joie?
C'est parce qu'il faut recommencer sa joie tous les jours et on ne peut pas faire l'exercice de la joie une fois pour toutes, mais on fait ces exercices comme on fait ces exercices de gymnastique. Et dans Plus haut que les flammes, d'ailleurs, j'avais les vers suivants. Tu refais ta joie comme une gymnastique. Et effectivement, le recueil Exercices de joie approfondit ces vers-là pour essayer de voir comment on peut pratiquer la joie, mais pratiquer la joie comme on fait ses gammes au piano, vous l'avez très bien dit, comme on fait ses exercices physiques, mais aussi comme des exercices spirituels. Alors, tous ces sens-là sont importants pour moi, et faire des exercices, il y a quelque chose là-dedans de très humble. Parce que la joie n'est pas un sentiment qui est donné une fois pour toutes, mais c'est un sentiment qu'on cultive. Et qu'on cultive, je dirais, dans la sueur.
Il y a trois parties dans votre recueil. La première reprend un peu le constat dressé dans les fascicules précédents, Plus haut que les flammes et La main hantée. Personne ne nous apprend à nous forger une carapace devant la détresse de notre monde. Dans ces premières pages, la poète est nue devant son miroir, devant sa page d'écriture. La poète est à l'écoute de la mélodie du monde. Qu'est-ce qui en ressort? De la résignation, du fatalisme?
Je dirais que devant la mélodie du monde, tout ça en même temps, mais aussi de l'horreur. Alors, le monde, quand nous vient la rumeur du monde, on est très souvent face à un désarroi ou face à une détresse. Et cette détresse-là, je l'ai mentionnée, j'en ai parlé, je l'ai approfondie dans « Plus haut que les flammes ». La détresse que nous ressentons tous et toutes depuis la Shoah, parce qu'on n'a jamais imaginé l'inimaginable, créer des usines de la mort. Dans La main hantée, je suis allée plus loin au sens où je retourne à la préhistoire pour montrer, enfin, même si un recueil de poésie n'est jamais pour montrer au sens pédagogique du terme, mais pour attirer l'attention sur le mal chez l'individu qui nous gruge tous et toutes. Et face à cette horreur-là, il faut se demander aussi si la mélodie du monde ne nous apporte pas de beaux accents, des accents de lumière, des accents de rire, des accents d'amour. Et est-ce qu'il faut toujours regarder du côté de la douleur, de la détresse, du désespoir? Est-ce qu'il ne faut pas regarder du côté de la douceur aussi, du côté de la vie et du côté de l'espoir. Alors, la mélodie du monde n'est jamais univoque, ce n'est jamais une seule voix, un seul instrument de musique qui nous est proposé, mais c'est un concert de voix discordantes à la fois qui nous parle de douleur, mais qui nous parle aussi de douceur. Et ce sont ces deux aspects-là que j'ai voulu mettre un à côté de l'autre pour éviter le cynisme, justement. Parce que sinon, si on ne voit que la détresse, le désespoir, on devient cynique et à ce moment-là, bon, on n'écrit plus.
Alors, les images des camps de Birkenau et d'Auschwitz répertoriées dans Plus haut que les flammes peuvent surgir encore. Hein, une suie qui colle au doigt de l'écrivaine, par exemple. Pourtant, oui, vous choisissez une autre manière pour combattre leurs effets. Effectivement, parler de la douceur comme discipline de combat. Est-ce que cette douceur est une autre forme d'engagement et pourquoi ?
Écoutez, je fais le pari de la douceur contre les armes à feu, contre la violence du monde. Il y a d'autres attitudes qu'on peut développer et la douceur nécessite une force. Ce n'est pas moi qui l'ai dit, c'est Proust. Les gens forts, je ne me souviens plus exactement de sa citation, mais ce sont les gens forts qui sont doux. Alors, quand on a peur, quand on est faible, on est violent. Mais effectivement, il faut cultiver la force et la douceur. Ce sont deux qualités qui vont ensemble. Et je fais le pari de cette douceur-là, qui est une assurance et une attitude de sérénité devant le monde et de confiance. Je parle souvent de foi, pas dans le sens sacré du terme, mais dans le sens dans ces trois livres-là. Et je pense que le poète développe aussi une foi en la vie qui passe par la foi en l'écriture.
France Théoret, dans le recueil « Cruauté du jeu », écrit « Le temps de l'écriture rude, rugueux, ne fait jamais du désir. Même si le siècle s'enfonce dans la mer, tel un paquebot en perdition, comme vous l'écrivez, quel chemin emprunte la poète dans votre recueil ? Est-ce que la radicalité l'emporte sur les ruines ou l'écriture s'ouvre-t-elle justement vers autre chose ?
C'est une très bonne question que vous me posez là. Je pense que la radicalité ne permet jamais, je ne devrais pas dire jamais, mais elle permet rarement de trouver des solutions. Le passage est dans l'entre-deux. Entre la douleur extrême et l'appât du bonheur extrême, c'est dans l'oscillation, dans le passage entre le désespoir et l'espoir que peut se créer justement une route où on peut s'engager. Et effectivement, il peut y avoir une sorte de leurre à croire en une radicalité qui va finalement nous amener à un mur. Mm-hmm. Bon, personnellement, ça n'a pas à voir avec l'écriture, mais avec le champ politique. Je pense que l'extrême gauche et l'extrême droite souvent en viennent à se rejoindre et sont inefficaces et qu'il faut trouver de nouvelles solutions, ce que la poésie essaie de trouver, en tout cas du mieux qu'elle le peut, selon les poètes, et dans Exercice de joie, je le vois dans les petites choses, dans l'humilité et dans une acceptation, non pas de son impuissance, mais d'une puissance limitée, d'un pouvoir très limité qu'on peut avoir sur le monde, mais aussi d'un engagement personnel et d'un engagement poétique.
Ouais, pour nettoyer cette suie, si on peut l'appeler comme ça, vous écrivez « Vouloir écrire maigre, pauvre, une fois apaisé, seul face à un paysage en ruine ». C'est quoi écrire pauvre, le lait maigre des mots, c'est quoi ?
Bon, je me réfère évidemment à l'histoire de la poésie du Québec, entre autres à Saint-Denis Garneau, qui avait une écriture très prosaïque. Je crois que quand un poète commence, il cherche la beauté de l'expression, la splendeur de l'expression. Il cherche à en être beaucoup, à éblouir. Et quand on commence à avoir un parcours poétique qui est plus consistant, on se rend compte que l'important, ce n'est peut-être pas d'éblouir l'autre, c'est de rejoindre l'autre, c'est d'avoir quelqu'un, un lecteur ou une lectrice à qui s'adresser, avoir une adresse et à qui tendre la main. Mm-hmm. Et à mon avis, ça passe par la simplicité, ça passe par la pauvreté, pas dans le sens d'insuffisance du langage, mais il faut effectivement enlever ses bijoux, enlever ses bagues. Ça, c'est une figure qui revient dans Exercice de joie, pour se mettre nu devant l'autre et pour offrir une parole, je dirais presque a cappella. Alors, cette parole-là qui n'a pas besoin de musique tonitruante, qui serait une parole chanter ou murmurer par moment, mais qui est une parole juste, de la justesse. Il peut venir des images, il peut venir de la beauté, mais ce sera une beauté simple. Ce sera une beauté qui cherche l'exactitude et la justesse.
Il y a une forme de lucidité cruelle dans vos mots. La mémoire des livres est un filet bien mince pour résister, mais nécessaire. Alors que le siècle s'enfarge dans l'horreur une fois de plus, partout, le poème ressuscite des paroles assassinées, écrivez-vous. La littérature est-elle, ou en tout cas le poème, devient-il un refuge, à votre avis, ou est-il une sorte de territoire dévasté malgré tout ?
Les deux, mais plus que ça. C'est un territoire dévasté parce que où on essaie de reconstruire un monde, reconstruire des habitations, reconstruire une ville, reconstruire un univers habitable. C'est à la fois ça, mais c'est aussi un univers, c'est un lieu surtout où on peut placer une subjectivité qui est une subjectivité vivante et encore active, une subjectivité qui ne se laisse pas dominer par les discours ambiants. Alors, vous pouvez me répondre que je me leurre totalement, que on est tous et toutes rejoints par les discours ambiants, qu'on n'a pas de liberté, mais je pense que travailler le langage et se mettre à réfléchir par soi-même grâce aux mots, laisser des mots nous porter, permet quand même de nous accorder une certaine liberté de mouvement, une liberté de pensée qui est trop rare actuellement.
Mmh. Comment écrire « je » si on ne croit plus en l'espèce humaine ? Ça, c'est tiré de la main hantée. Vous écrivez ici, dans ce recueil, « avoir renoncé au paradis quand vous avez renoncé au je ». Pourquoi et de quel paradis s'agit-il ?
Le paradis de l'absolu, le paradis du bien, du beau, du grand, de l'idéalité, pour devenir humaine, parce que il y a souvent, en tout cas chez les personnes de ma génération, du moins, une sorte d'élan ou de désir du grand, de la grand, des désirs de grandeur. Le fait, vous me faites m'en rendre compte actuellement, mais le désir de l'idéalité, c'est ça aussi, c'est un désir de grandeur, c'est la folie des grandeurs, la folie de la perfection. Et moi qui ai été élevée dans un climat catholique, on nous incitait quand on était tout petit à devenir des saints, des saintes, des gens qui n'avaient pas de défauts, qui n'avaient pas de péché. Alors c'était l'idéal qu'on nous inculquait. Mais c'est quand on quitte cet idéal-là Et avec cette idéal-là, l'idéal du bonheur avec un grand B, du bien avec un grand B, qu'on se rend compte que finalement on est tout petit, qu'on est des êtres imparfaits et qu'on peut devenir, qu'on se met à être vivant, qu'on accepte ce qu'on est et là on peut faire quelque chose. Mais quand on dit je et quand je l'entends, j'entends « je » comme une forme de « je » imbu de lui-même. Alors, évidemment, le « je », c'est la personne qui se place devant le monde, qui est sujet et qui prend le monde et l'autre pour un objet. Alors que j'ai voulu ne pas me placer à cet endroit-là, dans ces trois recueils-là. Mm-hmm. Mais dans la vraie vie, évidemment, on peut dire je. On ne peut pas parler aux autres ou à la deuxième personne, bien entendu.
Alors, quand on quitte cet idéal, qu'est-ce qu'à voir l'intuition du poème? Qu'est-ce que cette recherche du Graal, en quelque sorte, la recherche du mot unique, exubérant, parfumé, écrivez-vous, quasiment magique, qui, comme les larmes, ferait le nid de toutes les promesses. Qu'est-ce qu'avoir l'intuition du poème?
L'intuition du poème, et vous disiez tout à l'heure, est-ce un refuge? Je dirais que il y a, dans l'intuition du poème, l'intuition peut-être d'un refuge, mais d'un refuge ouvert, pas d'un refuge fermé sur soi, sur lui-même, où toutes les portes sont barricadées, mais un endroit où on peut se refaire et repenser le monde et recréer le monde autrement et tendre la main aux autres dans le langage qui est un langage qui n'est pas un langage de lieu commun et un langage un langage vulgaire, d'accord, un langage prévisible, celui qu'on entend malheureusement trop souvent dans les médias, dans les journaux, chez les politiciens, chez ce qu'on appelle la langue de bois, entre autres. Et on perd, je pense qu'il faut qu'on arrive à perdre notre langue de bois, même s'il faut être conscient qu'elle nous suit, même dans le poème parfois. Et il faut toujours, toujours défaire le langage et défaire la vision qu'on a de la langue et de ses usages les plus communs et les plus vulgaires.
La joie est un sentiment très puissant qu'il faut cultiver. C'est votre jardin à vous en écriture. De quoi ont l'air ces joies au pluriel? Est-ce que ce sont des joies individuelles ou des joies collectives? Est-ce que la poésie peut rejoindre cet engagement dans une dimension collective d'ailleurs?
Je crois que oui, elle l'a déjà fait. Si on retourne aux années 1970, avec des poètes comme Miron, comme Giguère, comme Paul-Marie Lapointe, où il y avait des nuits de poésie, où cette joie-là de la poésie devenait collective. Ce sont trois de beaux exemples. Maintenant, actuellement, la joie du poème serait plutôt, disons, individuelle et le poème serait partagé entre deux individus, l'écrivain, le poète et son lecteur ou sa lectrice. Mais il peut arriver à l'occasion d'une soirée de poésie, d'un événement, que le poème devienne un moment de joie collective. Maintenant, cette joie-là, ce n'est pas nécessairement une joie politique ou une joie où on se sent une collectivité. Ça peut être uniquement aussi, par moment, un sentiment partagé d'espoir, de foi en l'humanité, de foi en l'amour, de foi en une colère possible, parce qu'il peut y avoir aussi de la joie dans la colère, de dire « nous sommes encore vivants ». Être en colère, c'est aussi se sentir vivant, c'est aussi agir. Et de pouvoir se dire à quelques-uns, à quelques-unes, à plusieurs, ou dans une soirée, à beaucoup, oui, nous sommes là ensemble et nous sommes en joie ensemble. Nous croyons en la vie. On a beaucoup trop tendance à regarder du côté de ce qui ne va pas, du côté de la douleur, du côté de l'horreur. Il faut dire aussi qu'actuellement, on a beaucoup d'occasions de voir de l'horreur un peu partout, de sorte que notre regard est constamment attiré par l'horreur plutôt que par la beauté, par ce qui peut aller bien, par l'espoir, par l'avenir et par une sorte de pensée de la joie.
Le décès de votre mère occupe une place centrale, tout comme celle de donner naissance. On cesse d'être immortel à la mort d'un être cher, écrivez-vous. Est-ce que l'absence de l'être cher contient en elle-même son propre recommencement? Qu'est-ce que cela a changé dans votre écriture?
J'ai écrit un récit sur la mort de ma mère qui s'intitule L'album multicolore, qui a été publié chez Héliotrope. Je crois que la mort de la mère pour la femme et la mort du père pour l'homme, c'est toujours un moment crucial parce que on est le premier devant l'abîme. Jusque-là, c'est l'autre qui est avant nous. On est protégé, on ne mourra pas. Et la mère, je vais parler pour moi, ma mère était immortelle. Alors, elle vivrait toujours et par conséquent, j'étais immortelle moi aussi. Je ne mourrais pas. Mais ma mère morte, je suis la première près de la falaise et la prochaine qui va tomber, c'est moi. Alors, le sentiment d'immortalité, je l'ai perdu à ce moment-là. Je me sens maintenant mortelle. Et il faut vivre avec ce sentiment-là qui est un sentiment difficile dans un premier temps, dans un deuil, d'accepter qu'on soit immortel, mais en même temps très rassurant. Curieusement, parce que on peut profiter de la vie, ça ne durera pas toujours. Et donc, on peut porter davantage attention au monde parce qu'on sait ce qu'on va rater, ce qu'on n'aura pas toujours devant soi. Les oiseaux, les arbres, la beauté, le soleil, même le froid, l'hiver, les images familières ne nous sont pas données pour toujours, on va les perdre. Et c'est quand on a conscience qu'on peut perdre quelque chose ou un être qu'on commence à se rendre compte qu'il est précieux. Et moi, j'ai découvert à la mort de ma mère que la vie était précieuse parce qu'elle m'était prêtée, mais pas pour longtemps, pour quelques décennies encore. Et puis ensuite, ben voilà, c'est moi qui tomberai dans l'abîme. Alors, ça a changé beaucoup de choses dans mon écriture et ça permet, entre autres, dans l'exercice de joie, de me figurer près de la mort, même si je suis terriblement vivante aujourd'hui. C'est le besoin de faire un testament et un testament poétique aussi. Et exercice de joie, c'est, je l'écris pour les miens, je l'écris pour les personnes autour de moi, où je dis, ben voilà, ce que je voudrais, c'est, je voudrais vous laisser de la joie. Je voudrais que vous ayez une image de la vie qui est aussi pleine d'espoir, parce qu'on ne peut pas léguer que la douleur. On ne peut pas, quand on est mère, quand on est grand-mère, on ne peut pas dire « voilà, le monde est terrible, c'est terrible, pourquoi vous ai-je mis au monde ?» Non, et si on a mis des enfants au monde, c'est parce qu'on croyait que le monde était beau d'une certaine façon. Mais je ne dirais pas que tout est beau dans le monde, bien au contraire, il y a de l'horreur, loin de moi de l'ignorer, mais quand même, si on met des enfants au monde, c'est parce qu'on considère que la vie vaut la peine d'être vécue.
Pour finir, vous êtes une grande dame de la littérature. Vous appartenez à la généalogie des femmes qui n'ont jamais renoncé, comme vous l'écrivez. Renée Saint-Éloi vous rend un magnifique hommage dans le recueil « Moi tombée, moi levée » avec élégance, comme toujours. Il déclare dans une entrevue « Que serait Montréal sans Gaston Miron, sans Marie Huguet, sans Louise Dupré ? » Avez-vous conscience de ce legs magnifique que vous nous donnez ? Montréal et Louise Dupré, est-ce un mariage qui vous convient ?
Oui, Montréal et Louise Dupré, mais je ne suis pas consciente du legs que je vais laisser. C'est à d'autres de le voir. Et je pense que quand un écrivain commence à prendre conscience du legs qu'il va laisser, c'est là qu'il va devenir un mauvais écrivain, parce qu'il va vivre sur ses réserves. Et à chaque livre, il faut se recommencer. Il faut partir de zéro et se dire, ben, qu'est-ce que je veux laisser? Et s'il y a des personnes pour accueillir ce que je dis, ce que j'écris, ben, ça me ravit évidemment parce que j'écris pour donner quelque chose aux autres. Mais je ne veux pas prendre conscience d'un legs possible de ce côté-là. Je préfère écrire dans l'ignorance de ce que je peux laisser.
Voilà, pour vous paraphraser dans le recueil « Plus haut que les flammes », cette trilogie, c'est la vie qui reprend sur des sols inhabitables. Il ne faut pas que le désespoir agrandisse les trous de ton cœur. Comme l'écrit la poète, tu n'attends plus qu'on t'aime pour aimer. C'est ce que je vous encourage à faire, lectrice, lecteur, avec le dernier recueil de la trilogie « Exercice de joie » par Louise Dupré, paru en 2022 aux éditions d'Une Roi. Merci infiniment pour votre visite à Mission Encre Noire, Louise. Je reste immobile un bon moment après avoir terminé ma lecture. Les mots résonnent en moi comme un écho qui emplirait une vallée rocailleuse. De longues minutes passent avant que je ne me sente prêt à repartir, envahi par le sentiment profond que ceux-ci me sont directement adressés. Je me surprends à imaginer qu'ils ont été écrits de la main d'une des personnes que j'ai aidé à retrouver alors qu'elle était perdue en forêt. Je me plais à penser que celle-ci, même après une expérience aussi inquiétante, aurait choisi de continuer à arpenter ces territoires sauvages, si beaux et si terribles à la fois. Il me semble que les lettres à demi effacées frémissent doucement sur la page, comme la minuscule flamme d'une lame tempête résistant à l'assaut des éléments. Je songe un instant à arracher la feuille et à l'emporter pour la suite de mon périple. Je me ravise. J'écris mon nom sur une page vierge avant de refermer le cahier et de le ranger soigneusement dans la boîte. Je réalise que ces cahiers éparpillés le long de la piste forment en quelque sorte la mémoire de la trail. Les pages fripées recueillent et rassemblent les destins de ceux qui ont sillonné le sentier avant moi, ainsi que de ceux qui suivront. Et même si je sais trop bien à quel point la forêt peut être cruelle, allant parfois jusqu'à avaler les enfants égarés, je me sens entièrement serein et apaisé, alors que je m'enfonce à nouveau dans le bois. Ceci est un extrait du Silence des braises par Alex Serra Wagner, paru en 2023 aux éditions de La Maison en Feu. Au jeu de se perdre, qui est le plus fort ? À l'image du personnage de la première des 8 nouvelles qui ouvrent ce recueil, on a beau repasser une fois toute la liste des matériels de randonnée dans sa tête, ce qui compte en réalité, c'est l'imprévu. Je veux dire, ce que l'on retient bien souvent au final, c'est ce qui rend l'expérience unique. Comme signer son nom sur une page vierge pour dire « cette histoire m'appartient ». Or, la nature, ici, la forêt en particulier, n'en a cure. Elle peut être cruelle, et ses récits ne la concernent pas. Au cœur de la forêt brûlée, le feu qui couve encore sous les braises annonce un renouveau à venir, voire un prochain incendie dévastateur. Malgré elle, malgré eux, il en va de même pour les divers protagonistes qui habitent ce premier de cordée littéraire. De la baie James à la Haute-Mauricie, du Warren Island State Park à celui de Prudhomme Lake, en Colombie-Britannique, chaque personnage qui sera confronté à l'immensité des territoires sauvages devra tôt ou tard y sacrifier une part intime de lui-même. Si certains, certaines, se découvriront un instinct de survie, d'autres renonceront. La plupart y auront peut-être trouvé une nouvelle compagne, la solitude éclairée. Je vous propose de vous engouffrer dans le creux du bois ce soir à Mission Encre Noire, en compagnie d'Alex Serra Wagner. Bonsoir Alex.
Bonsoir.
Vous êtes Montréalais, vous êtes auteur, acteur et enseignant. Vous avez joué au théâtre Prospero en 2013 dans la pièce « Hiver » de John Fosse. Vous avez travaillé en théâtre d'objets et en théâtre jeunesse. Votre texte « L'enfouissement » a été retenu pour le prix de la Nouvelle Radio-Canada en 2020. Vous pratiquez la randonnée, vous avez parcouru la Superior Hiking Trail au Minnesota et la Long Trail au Vermont, sans oublier le Sentier international des Appalaches en Gaspésie. Le silence des braises est votre premier livre. Alors, comment est né ce projet de nouvelles ? Ont-elles trouvé leur inspiration sur le cheminement de vos trails de randonnée ?
Oui, oui, tout à fait. En fait, le premier projet de randonnée longue distance au Minnesota, à la base, n'était pas lié à un désir d'écriture. À l'époque, j'étais pas mal strictement dans le milieu théâtral. Mais ça s'est vite imposé lors de l'expérience. Il y a quelque chose de à la fois en plein dans le monde et hors du monde. Lorsqu'on marche aussi longtemps seul, qu'on est dans sa tête, il y a une sorte de méditation qui émerge. Ça donne beaucoup de place à la pensée. Puis l'écriture, c'est quelque chose que j'avais, disons, mis de côté là après mon entrée à l'école de théâtre. Je concentrais beaucoup de mon énergie sur ma carrière de comédien, disons. Puis ça s'est vite imposé, ce désir de revenir à l'écriture à ce moment-là. Je savais pas du tout quelle forme ça allait prendre, mais c'est univers forestier où, comme vous l'avez bien dit là, dans votre introduction, la solitude prend beaucoup de place. Je savais que ça allait finir par être présent dans le ou les récits que je voulais raconter. À la base, mon idée n'était pas nécessairement de faire des nouvelles, mais je pense que la multitude des personnages, des destins dans cet environnement-là se prêtait bien à la forme, en fait.
Il y a un extrait du Field Guide to Getting Lost de Rebecca Solnit, paru en 2005, qui figure en exergue du recueil. Qu'est-ce que cette lecture vous a inspiré ? Qu'est-ce qui vous interpelle dans l'opportunité de pouvoir se perdre, comme le dit le titre ?
Oui, ben c'est tout est là, en fait. C'est ce qui est au cœur de ces récits. C'est que pour moi, l'égarement, comme je le nomme, fonctionne de manière ambivalente. Il y a comme un mélange de deux sentiments. Pour moi, ce n'est pas seulement la peur ou l'inquiétude d'avoir dévié du chemin. Il y a aussi une forme de bonheur à cet égarement-là, de liberté, d'inconnu qui nous appelle. Et c'est le genre de vision que Rebecca Solnit propose dans cet essai, que je connaissais pas. C'est une autrice qui me l'a recommandé quand elle a su sur quoi je travaillais. C'est un livre qui m'a permis d'aller de l'avant dans ma réflexion critique sur mon recueil de nouvelles qui, pour le préciser, a été écrit la première version dans le cadre de mémoire création à l'UQAM, à la maîtrise. Donc, il y avait un aspect théorique, un aspect plus, disons, critique qu'il fallait que je mette de l'avant. Et le livre de Solnit m'a énormément aidé à mettre les mots sur ces sentiments que j'avais, mais que j'avais peut-être difficulté à nommer là, pour la partie disons, un peu plus théorique de mon mémoire de maîtrise.
Bah, arrêtons-nous particulièrement sur le titre « Le silence des braises ». Qu'est-ce que l'écrivain a envie de fouiller dans ces décombres?
C'est cet état de la matière, si je peux dire, assez particulier que je trouve dans les braises. Au premier abord, c'est le rapport à cet élément-là, quand on est assis autour d'un feu, que le feu, justement, est en train de s'éteindre, mais n'est pas complètement éteint. Il y a quelque chose de latent, de l'ordre d'une longue transformation vers la cendre, qui est une trace de ce qui a eu lieu. Donc, je m'intéresse à cette espèce, à cet état-là de transformation qui peut paraître immobile, mais qui ne l'est pas vraiment. Et c'est ce que j'ai essayé de mettre de l'avant dans mes récits, une écriture un peu atmosphérique de cet état-là qui est des braises. Et l'idée pour le silence, c'est que, contrairement au crépitement du feu, ben, on s'aligne vers le silence, justement, mais on n'y est pas tout à fait. Donc, qu'est-ce que ce silence-là peut vouloir dire, justement, dans ces derniers instants de vie, de mouvement du feu-là, avant qu'il se transforme complètement en cendre.
Parmi vos 8 nouvelles, une doctorante en mycologie part en terrain de recherche, un homme tente de parcourir une rivière gelée en patins nordiques, une gardienne de parc provincial fait une étrange découverte, d'autres personnages pensent leurs blessures intimes. Y a-t-il un désir de fuite qui habite vos personnages dans ces 8 nouvelles? Qu'est-ce que l'appel vers la nature vient-il nourrir?
Je dirais pas nécessairement de la fuite, je dirais plutôt dans l'idée d'une guérison. C'est quelque chose qui, en tout cas pour moi, est nécessairement lié à ma pratique du plein air, si je peux la nommer comme ça. Ce désir d'aller à la nature, c'est pour se ressourcer, je dirais, pour guérir, pour essayer de comprendre certaines choses qui nous sont arrivées, peut-être des blessures qui peuvent être de tout ordre. Ça fait besoin pour moi d'être quelque chose de profondément traumatisant pour qu'on ait besoin de se ressourcer en nature. En tout cas, d'un point de vue personnel, c'est pas ce qui m'est arrivé, mais j'avais envie de mettre de l'avant des personnages blessés, un peu perdus justement dans leur vie à la croisée des chemins.
Ouais, je remarque que la plupart des sentiers portent une histoire, un héritage. C'est vrai pour le sentier Stillman McCormick, vous le racontez d'ailleurs. Mais c'est encore plus vrai dans la nouvelle intitulée « S'éloigner du sentier ». Il y a ce secouriste qui trouve un cahier rongé par l'humidité, adossé à un poteau, rempli de citations. Alors, c'est drôle quand même ce besoin de se raconter ou de laisser une trace. Va-t-on vraiment se perdre dans le bois, selon l'expression consacrée, ou va-t-on y chercher autre chose, selon vous? Y va-t-on pour chercher une histoire du vécu?
Je pense que c'est les deux. Je pense que vous le dites très bien. Là, il y a cette idée du cahier laissé sur la traîne était très forte en moi, parce que c'est quelque chose qui vient de mon expérience. Toutes les trails que j'ai parcourues sont semées de ces cahiers qui sont en quelque sorte la mémoire de cette trail-là. Puis il faut dire quand même que, en général, ce sont des petits mots gribouillés avec seulement le nom d'une personne ou une petite blague ou des dessins. C'est jamais vraiment très sérieux, mais c'est le témoignage du passage des autres personnes qui font le même choix que nous quand on décide de fréquenter ces environnements-là. Donc, je pense qu'il y a quelque chose de l'ordre de la connexion avec les autres aussi, qu'on va sentir que même si on peut passer plusieurs jours seul dans certaines de ces trails-là, ben, il y a d'autres gens qui passent par là. On trace ensemble ce sentier, cette ligne, cette mince ligne à travers le territoire sauvage. Donc, encore une fois, c'est de ramener une certaine matérialité dans cette fréquentation de la nature. On n'est pas seulement dans un paysage, on l'observe pas seulement, mais on entre en contact avec celui-ci, et écrire sur un cahier qui reste là, qui témoigne de ces passages-là, pour moi, participe de cette matérialité-là. Puis comme vous l'avez dit, laisser la trace, ben, il y a tout un symbole avec celui du métier de l'écrivain, mais aussi être dans la matière, c'est-à-dire prendre un crayon, écrire avec sa main, utiliser comme un outil. C'est toutes les influences, là, disons, surtout de Annie Dillard, qui est une des penseuses, des écrivaines qui m'ont beaucoup inspiré là, dans mon rapport à la création littéraire.
Est-ce que le but de la randonnée en forêt ou en pleine nature vient nourrir un désir profond, celui de s'égarer, selon toi? Est-ce que c'est aussi peut-être une démarche que tu retrouves dans ton écriture? Est-ce que tu ressens un besoin aussi de te perdre, de t'égarer lorsque tu écris?
Ben pour ce projet-là, qui est mon premier livre, oui, c'était le sentiment qui était disons à la source du désir d'écrire et que j'ai trouvé aussi dans l'écriture de ces nouvelles-là qui s'emboîtent un peu les unes les autres quand même par rapport à l'environnement, aux motifs qui reviennent souvent et aux thèmes qui sont exploités. Mais sinon, je dirais pas que mon rapport à l'écriture en est un de l'égarement tout le temps. C'est cette possibilité de s'égarer dans la fréquentation de la nature sauvage que je trouve enivrante et inquiétante à la fois et que je recherche quand je marche. Mais pour moi, l'écriture n'est pas que ça. Je pense que c'est un sentiment fort pour ce projet-là, mais pour les projets à venir là, auxquels je commence à penser, je crois pas que c'est le sentiment que je veux nécessairement mettre de l'avant. Mais cette idée de l'anecdotique, c'est vraiment quelque chose qui est important pour moi. Je suis content que vous l'ayez remarqué parce que on a souvent l'impression qu'on s'imagine, peut-être pour des gens qui n'en ont pas fait beaucoup, qui pensent peut-être à aller faire de la randonnée longue distance, qu'on est soit dans l'effort physique très, très difficile ou dans une contemplation presque divine là, des paysages époustouflants. Mais il y a beaucoup aussi de train-train quotidien, d'anecdotique, de banal dans ces expériences-là, comme dans tout par rapport à la vie en général. Donc, je voulais mettre ça de l'avant, je voulais montrer ces aspects ordinaires aussi de cette activité qui peut paraître extraordinaire. On reste quand même dans quelque chose de somme toute banal comme beaucoup d'expériences humaines. En fait. Mm-hmm.
Dans une autre nouvelle, un couple vient se ressourcer dans la baie de West Penobscot à Warren Island. Elles ont survécu à un drame terrible. Elles ont souffert dans leur âme et dans leur corps au détour d'une baignoire en plein air. L'une décrit le corps de sa compagne. Elle porte des cicatrices, le corps abîmé, la forêt brûlée. Il existe des correspondances troublantes dans vos histoires. Le thème de la reconstruction de soi, de reconfigurer l'espace, habite-t-il vos pages? Y a-t-il une correspondance entre, je dirais, le territoire abîmé en souffrance et l'humain en reconstruction?
Oui. Je crois que oui. Je pense que ces personnages-là qui sont meurtris dans un sens, blessés, qui ont vécu des choses pour certains très difficiles, choisissent tout de même de tenter de continuer à avancer. Puis c'est ce que je voulais mettre de l'avant. Je pense que c'est très bien dit. Mais pour ce qui est du passage auquel vous faites référence, les cicatrices, le personnage qui observe sa compagne, les voit apparaître, mais il se les imagine, en fait, parce que c'est des cicatrices de fausses couches. Donc, on ne les voit pas, on les ressent pour le couple, cette blessure-là, mais elle n'est pas visible aux autres. Donc, je voulais mettre en parallèle cet environnement idyllique, là, paradisiaque dans lequel ils sont, et aussi la blessure qui afflige ce couple-là et dont ils cherchent à guérir, en fait. Et pour moi, c'est le fait justement d'aller en nature, de s'éloigner de son quotidien qui leur permet d'avoir une nouvelle perspective sur ce qui leur est arrivé et peut-être d'envisager l'avenir de manière positive quand même.
Mmh. Alors, il y a une couple de nouvelles qui échappent au thème de la randonnée. Je pense à Près de la traque ou Déraillé. Alors, pourquoi ces choix? Parce que dans ces nouvelles, Samuel d'un côté et la jeune femme cycliste veulent échapper à un environnement toxique. On retrouve le thème éculé de la fuite en avant. La balade à vélo pourrait peut-être même revisiter le Sur la route de Jack Kerouac, pourquoi pas. Est-ce que vous considérez que ce qui compte ici, c'est le besoin de ne pas se conformer, de choisir une vie différente que l'on retrouve ailleurs encore, d'ailleurs, dans le livre?
Oui, je pense que c'est quelque chose qui fait partie de ce désir d'aller en nature à la base. Il y a un certain désir de marginalité. Je ne parlerai pas nécessairement de fuite pour tous les personnages, mais ces deux-là, c'est vrai qu'on ressent plus fort chez eux ce désir de fuite, de s'éloigner d'une société dans laquelle ils ne se sentent pas nécessairement bien. Je ne voulais pas donner non plus toutes les réponses là, dans le passé de ces personnages-là à qu'est-ce qui les pousse à vouloir fuir. J'ai aussi une pratique du cyclotourisme qui est pas la même chose que la fréquentation des trails en forêt, mais je voulais quand même exploiter cette image du chemin, du sentier, du parcours, de la route d'une certaine manière, et c'est pour ça que dans la nouvelle sur le vélo, la personnage, la narratrice a hâte de se retrouver dans des trails plus forestières sur son vélo, justement, de quitter cette route pavée qui est fréquentée par les voitures, parce que pour ceux qui font du cyclotourisme, beaucoup de vélos, vous savez comme moi, la proximité des voitures est quelque chose d'inquiétant et de dangereux.
Et pas besoin.
C'est une image que je voulais mettre de l'avant avec ce personnage-là, qui préfère être seul, en fait. Puis elle dit souvent lors de la nouvelle qu'elle recherche la solitude. Donc, pour elle, c'est ça. Et pour l'autre, près de la traque, ben, penser à ce désir de fuite vraiment plus ancré dans l'adolescence que j'ai quand même ressenti à l'époque, comme beaucoup d'entre nous. Et cette idée du sentier, je voulais la mettre en rapport avec le chemin de fer. Je trouvais que cet environnement-là, cet espace du chemin de fer était intéressant d'un point de vue de la fiction puis de rapport à la nature sauvage, des grands chemins de fer qui traversent, comme les trails de randonnée, en fait, des espaces complètement sauvages. Ça me paraissait intéressant aussi. Donc, j'avais envie d'écrire une courte nouvelle là-dessus.
J'aimerais prendre le temps de m'arrêter un petit peu plus longuement sur une nouvelle fascinante à plus d'un titre, Hors Piste. Il s'agit de l'histoire de Martin. Il part seul pratiquer le ski nordique du côté de la rivière Manoine. Il est mal pris par le froid. Cette nouvelle dénote dans l'ensemble du recueil, je trouve. C'est le seul personnage qui se met réellement seul en danger. Dans quelles circonstances avez-vous trouvé l'inspiration pour cette histoire?
C'est à la rencontre de plusieurs choses. C'est vraiment une de mes préférées aussi. Je suis d'accord avec vous, là, qui détonne un peu par rapport au reste du recueil. Je voulais, dans quelque sorte, rendre hommage à cette littérature du monde sauvage hérité, disons, des Jack London, Jim Harrison de ce monde, qui a façonné un peu mon rapport à la lecture quand j'étais plus jeune. Aujourd'hui, je suis conscient des limites et du point de vue un peu, disons, masculiniste de ces fictions-là, mais j'avais quand même envie de mettre de l'avant une nouvelle où il y a cette idée de l'homme un peu contre la nature, dans un sens, qui se met réellement en danger et qui part en expédition. C'est quelque chose que je voulais mettre de l'avant. Et en faisant des recherches, j'ai une pratique aussi du ski de fond, du ski nordique en forêt en hiver, qui m'est hérité beaucoup de mon père. Donc, c'est pour ça que dans cette nouvelle-là, ben, il y a un rapport à la figure paternelle, le fils et le père. Mon père est guide de ski dans les Chic-Chocs en hiver. Donc, c'est vraiment un expert du ski de randonnée, de haute route et du ski de fond. Donc, je voulais mettre ça de l'avant. Et cette idée du patin nordique, quand je faisais des recherches, j'avais envie de faire quelque chose d'un peu différent et de considérer comment une rivière peut, l'hiver, devenir un sentier, justement, quand la glace arrive et le personnage peut patiner dessus, donc suivre la rivière comme un sentier. Cette pratique-là est vraiment très peu répandue ici en Amérique du Nord, mais c'est assez connu et pratiqué en Scandinavie, en Suède et en Finlande, en fait. Donc, je trouvais ça particulièrement inspirant par rapport à la figure de la trail du sentier, et je trouvais que ça marchait bien pour justement faire une histoire où un personnage est confronté là, à une nature plus impitoyable, disons, plus dangereuse que dans d'autres nouvelles.
Alors, j'ai envie d'insister un petit peu sur cette nouvelle parce que ce qui est génial, c'est qu'on découvre une autre dimension. Martin déclare d'ailleurs « Des choses étranges peuvent se produire ici ». Je me suis demandé, a-t-on perdu justement cette relation magique au territoire, imprévisible, cette relation avec notre environnement ? L'avez-vous expérimenté vous-même ? Et justement, n'avez-vous pas découvert ce côté magique, voire réalisme magique ? Est-ce que ce côté mystérieux dans vos prochains projets, ou même à ce moment-là, ça vous a questionné, ça vous a intéressé, fasciné ?
Oui, je suis content que vous l'ayez noté parce que c'est un clin d'œil au réalisme magique, justement, là, ce passage. C'est tout à fait ça que je voulais mettre de l'avant. Et votre observation est très bonne. C'est en effet quelque chose que j'ai vécu après là, à plusieurs reprises. Ayant une imagination déjà à la base un peu fertile, là, étant un écrivain, un acteur, je suis souvent dans ma tête en train d'imaginer des choses, ben quand on est seul au milieu de la forêt la nuit dans une tente et qu'on entend des bruits, ben on s'imagine des choses. Donc ça m'est arrivé souvent de sortir de ma tente à me dire okay, qu'est-ce qui se passe, c'est quoi qui grouille dans les parages, puis de chercher avec ma lampe frontale, puis de rien voir. Je pensais trouver, je sais pas, un raton, un ours même peut-être qui fuyait dans ma nourriture pas trop loin. J'étais convaincu à un moment donné qu'il y avait un ours pas loin de moi la nuit, mais je l'ai pas trouvé. Donc peut-être qu'il s'est enfui sans bruit, peut-être qu'il n'y a jamais eu d'ours. Donc c'est cette idée de pas savoir ce qui est arrivé, je trouvais que ça se prêtait bien au jeu du réalisme magique. Par rapport à l'événement là, qui arrive à Martin, c'est-à-dire il entend des bruits, finalement ce qui arrive c'est la neige qui est tombée, qui recouvre le territoire, qui change complètement le paysage et son environnement. Donc qu'est-ce qui a causé ça? Ben évidemment c'est rien, mais peut-être que lui il s'imagine qu'il y a quelque chose qui lui est arrivé, qu'il ne parvient pas à expliquer. En fait.
Pour finir, il y a un poème qui est reproduit tel quel dans la nouvelle finale. Il a toute une histoire, hein, oui. ce poème. Vous pourriez nous raconter cette histoire. Mais j'ai envie de vous demander, à quoi pensez-vous lorsque vous pensez nature ? Partir en randonnée, est-ce un besoin majeur ? Qu'est-ce que cela vient nourrir chez vous ? Qu'est-ce que cela vient nourrir chez l'écrivain ?
Je pense que si je peux, c'est une question assez vaste, je pourrais en parler pendant longtemps, mais si je reviens vraiment à la base de ces airs-là, quand on marche avec des souliers en ville, non, comme tout bon Montréalais, comme moi, on n'est pas en contact avec le sol, on n'est pas grounded. Grounded, c'est une expression anglaise, mais qu'on utilise beaucoup au théâtre aussi, sur la scène, quand on n'est pas présent, quand on est dans notre tête, disons, souvent les metteurs en scène, les profs, les gens avec qui on travaille, ils disent « tu ne me sembles pas grounded, tu ne me sembles pas présent ». Et le fait d'aller marcher sur la Terre, sur la surface de notre planète, disons, là, ça paraît un peu exagéré, mais c'est réellement ça, me permet, à la fois en tant que qu'auteur, que père de famille, que citoyen, que qu'être humain, tout simplement, de me sentir connecté avec la nature. Et je suis pas, nécessairement quelqu'un de très croyant dans la vie, mais à force de fréquenter cet environnement-là, on se rend compte de toute la force que la nature a, puis c'est quelque chose à laquelle je crois ce pouvoir qu'a la nature, de nous recentrer dans notre corps, dans le moment présent aussi, parce que je suis souvent en train de penser à qu'est-ce qui s'en vient, qu'est-ce que j'ai fait, je suis anxieux comme tout le monde, mais quand je me retrouve dans le bois, ben je suis beaucoup plus dans le moment présent, beaucoup plus en rapport avec mon faut que je marche encore 6 kilomètres pour me rendre au campement, faut que je me fasse à bouffer, faut que je me repose, donc on est dans le moment présent, puis pour moi c'est ça que je vais chercher quand je fréquente la nature, puis ça me ressource à bien des égards en fait.
Voilà, aimer la nature, ses mystères, arpenter le territoire, en relever ses dimensions, fabriquer des histoires au cœur d'un environnement magnifique, parfois brutal, toutefois menacé d'extinction, la vie trouve néanmoins des voies insoupçonnées pour renaître des cendres. Cela vaut pour la forêt comme pour les humains. Vous le découvrirez à la lecture de ce premier recueil de nouvelles, Le silence des braises, par Alec Serra-Wagner, paru en 2023 aux éditions de la Maison en Feu. Merci Alec d'être passé à Mission Encre Noire. Voilà qui met fin à Mission Encre Noire ce soir, le tome 38, le chapitre 409. J'ai eu le grand plaisir de recevoir en première partie d'émission Louise Dupré pour nous présenter Exercice de joie, paru en 2022 aux éditions du Nord-Roi, ainsi qu'en deuxième partie d'émission Alec Serra-Wagner pour nous présenter Le silence des braises, paru en 2023 aux éditions de la Maison en Feu. Voilà, on tourne la page et on se dit à la semaine prochaine. Salut là!
Fedeu, acho que foi. Pô, mas o negócio tava bom, bicho. O negócio tava bom, só quando ele tava fazendo tão entupido.
Gostoso!
Olha, quem diria, hein? Greta Garbo acabou de irajar, hein?
É, mas eu tava falando pra você, né? Depois que eu passei a me sentir, aí o negócio ficou diferente.